おかしいおかしい。
Je vous propose d'écouter à présent le magazine Dialogue entre Congolais qui est animé ce soir par Jean-Claude Tumba Kamonga.
Bonsoir. Affrontement armé dans les hauts et moyens plateaux du Sud Kivu. Quelles conséquences à ce jour de ces combats? Quelles solutions pour mettre fin au conflit? Trois invités pour en parler et répondre à vos préoccupations ce soir. Monseigneur Joseph Boamouhania, recteur de l'Université catholique de Bukavu. Moïse Nyarugabo, sénateur RCD. Sébastien Ngomirakiza, cadre du PPRD au Sud Kivu et ressortissant de haut plateau de Milembwe. Des auditeurs réagissent déjà à ce sujet, notamment Matumou de Bukavu. Un vrai militaire peut-il poser des questions politiques à son pays s'il n'est pas manipulé par des politiciens? De Bukavu encore, Robert Baumé demande quelles revendications légitimes peuvent-elles être à la base de ces affrontements armés de haut et moyen plateau de Milembwe? Nous sommes fatigués avec les problèmes de l'Est, dit l'ingénieur Bourson Mboui de Kisangani. Pour lui, le gouvernement doit prendre ses responsabilités car le budget est déjà voté. À tous et à toutes, bienvenue dans cette émission.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
À Ouvira, la communauté humanitaire vient de tirer ce jeudi le premier bilan des affrontements qui ont opposé depuis le 9 juillet les éléments de FARDC au groupe des dissidents du côté des hauts plateaux d'Ouvira, notamment à Katobo. L'équipe était conduite par le bureau de coordination des affaires humanitaires, Ocha Ouvira, en collaboration avec les services des droits de l'homme de la MONUC et les ONG internationales d'Ouvira. Selon leur constat, la situation est relativement calme, même si les affrontements se poursuivent depuis hier autour de Mourambia et des poches de résistance signalées dans certaines localités. Le point avec Fiston Goma.
Une soixantaine de maisons brûlées, un civil tué et deux fillettes grossement blessées, une centaine de maisons déplacées, tel est le premier bilan que vient de tirer une équipe humanitaire conduite par Ocha Ouvira se jeter dans les hauts plateaux d'Ouvira à Katobo. Selon les informations locales, il y avait 39 maisons brûlées à Kanonon, 17 à Bikinga, une dizaine à Rogesi et 9 à Nanengue. Un civil aurait été tué à Kanonon et deux fillettes gravement blessées ont été transportées à l'hôpital d'Ouvira par le FRDC. Encore à Kanonon, les informations font état d'un élément FRDC et un dissident tué dès le premier échange le 9 juillet. À noter que les informations recueillies par la mission humanitaire des Nations Unies coïncident avec celles rassemblées par la communauté Banyamulenge d'Ouvira. Informations basées sur les témoignages lors de sa descente dans les hauts plateaux. Concernant le vol et pillage de bétail, le président de cette communauté à Ouvira a indiqué qu'il n'a pu identifier qu'une centaine de vaches, dont 63 avaient été remises à leurs propriétaires. La population locale commence à se désolidariser de plus en plus des dissidents qui ont essayé récemment de remplacer les chefs traditionnels Banyamulenge par des hommes à eux. C'est à quoi la population s'oppose. Maintenant que les insurgés sont en difficulté, mis en déroute par le FRDC, ils harcèlent le marché de leur communauté, tendent des embuscades, attaquent, puis se replient dans la forêt. Kistongoma Mayabala Ouvira pour Dialogue entre Congolais.
Alors, nous avons en ligne depuis Bukavu, Monseigneur Joseph Boamouhania, recteur de l'Université catholique de Bukavu. Bonsoir, Monseigneur.
Bonsoir.
Voilà. Merci de participer à cette émission. Comment la population, justement, sur place, là-bas, ressent toutes les conséquences de ces affrontements?
Oui, j'ai été à Ouvira il y a 3 jours pour questions d'université, pas pour des questions politiques, mais enfin, j'ai eu quand même des contacts avec les gens. Il faut dire que ce qui a été ressenti, c'est au-delà de la panique au départ à ce moment-là, de la nervosité et même de l'exaspération, quoi, parce que la guerre dure depuis 1996 et les gens ont envie que cela finisse. Bon, ça, c'est un sentiment global dominant pendant le moment de tension. Mais on peut tout de même dire aussi qu'il y a eu une certaine relativité de cela dans la mesure où d'abord le calme est revenu, que les affrontements ont fait des bilans évidemment regrettables, mais pas aussi lourds que dans les périodes passées où c'était des massacres de populations à grande échelle. Et les gens vivent aussi bien à Bukavu qu'à Uvira avec des membres de la communauté banyamulenge qui participent même à la vie publique, y compris dans le haut commandement de l'armée, sans problème. Mais cela étant, au niveau des incidences, on peut tout de même noter des séquelles et des effets que je dirais indésirables, notamment le maintien des soupçons entre les gens appartenant à différents groupes humains. Des choses pareilles ne peuvent que accentuer cela. Le frein à la mise en route de la reconstruction nationale et de l'intégration régionale, je trouve que ce sont des graves responsabilités que des gens prennent en faisant cela. Cela étant évidemment le mécontentement politique qu'on peut toujours en avoir. Il n'y a aucun pays où un gouvernement en place fait l'unanimité. Hein. C'est pour cela que l'opposition existe. Voilà, ça c'est mon premier regard sur les incidences.
Oui, merci Monseigneur. Nous vous gardons évidemment dans cette émission. Nous avons aussi en ligne depuis Bukavu, Sébastien Ngomiratiza, vous êtes cadre du PPRD au sud Kivu, vous êtes même ressortissant de Haut Plateau de Milembwe. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter en rapport justement avec les conséquences de ces affrontements au niveau de la population?
Oui, je voudrais dire que effectivement la guerre est là et que les conséquences y en a, mais généralement le grand problème qu'il y a, c'est que les guerres entre armées, ça veut dire entre l'armée nationale et les réfractaires au brassage, a des conséquences aussi même sur les communautés, de façon que les gens arrivent à dire que ce sont les communautés locales, les Banyamulenge, qui sont en guerre contre le gouvernement, alors que ce n'est pas ça.
Ok, voilà, merci Sébastien Ngomiratiza. Nous avons dans ce studio le sénateur Moïse Nyarugabo. Quel est votre point de vue là-dessus?
La première chose à dire, c'est que au niveau du bilan, j'ai appris qu'il y a eu une délégation qui s'est rendue dans les moyens plateaux. Katobo, c'est à quelques kilomètres de la route, donc de la plaine de la Ruzizi. C'est normal qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe dans les hauts plateaux, là où il y a des combats, là où il y a des affrontements. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, un seul coup de feu à Katobo. C'est après Katobo, à partir de Kageregeri, donc de Nyanenge, et dans les hauts plateaux, qu'il y a eu des combats. Donc c'est tout à fait normal que Ocha n'ait pas un bilan, qu'il parle d'un blessé, disons de deux blessés, d'un mort, et ainsi de suite. Mais il faut que nous ayons des nouvelles de Murambia, de Mikalati, de Kamombo, de tous ces autres villages où il y a des combats, Nyamulombo et d'autres. Et là, nous allons connaître la vérité. Mais sinon, dire qu'on a été à Katobo, ça ne veut rien dire. Deuxième élément. Moi, je reviens d'abord sur le principe lui-même des affrontements. Les affrontements que nous connaissons aujourd'hui dans les hauts plateaux pouvaient bien être évités. Rien et personne ne peut prouver ni démontrer que toutes les voies pacifiques et politiques comme souhaitées ont été essayées et n'ont pas réussi. Donc c'est une guerre pour rien. Et le dialogue avait commencé. Il a été interrompu. Qui l'a interrompu et pourquoi? Et troisième élément, les Nations Unies. Vous avez suivi la déclaration du Conseil de sécurité et la déclaration du président. La déclaration de l'Union européenne et d'autres, tous ont demandé à toutes les parties de s'abstenir d'utiliser la force militaire dans la solution des questions qui se posent à l'Est. Aujourd'hui, j'ai besoin de savoir qui a ordonné qu'il y ait guerre, parce qu'il y a beaucoup de groupes armés au sud Kivu et ailleurs. Il y en a même qui ont des mouvements politico-militaires, qui n'ont pas encore été attaqués, qui sont même aux environs de l'état-major de la 10e région militaire. Alors, pourquoi seulement les 250 ou 300, c'est eux qui constituent le grave danger pour lequel le gouvernement devait décider de comment? Si c'est lui qui a ordonné la guerre, je me demande, est-ce que c'est le chef de l'État, est-ce que c'est le chef d'état-major général, est-ce que c'est le ministre, est-ce que c'est le commandant des régions, ou c'est simplement parce que la question est mal gérée, qu'il y a eu des incidents, les militaires se sont entrés dedans, et puis
on est en train d'en guerre comme ça. J'ai besoin de savoir qui a ordonné la guerre et pourquoi.
Ouais.
Parce qu'il y a beaucoup de groupes armés. Il y a 14 000 hommes en armes au sud de Kivu, de la bouche du ministre de la Défense au Sénat, qui ne sont pas encore brassés. Mais on a attaqué là il y a 250. Où sont tous les autres? Et voilà. Pourquoi on n'a pas commencé par les groupes?
Voilà, nous retournons justement au sud Kivu, où nous retrouvons Sébastien Ngomiratiza. Vous êtes cadre du PPRD et vous êtes ressortissant du haut plateau de Milembwe. Il y a des questions que vient de poser le sénateur Moïse Niarugabo, notamment sur le bilan. Pour lui, le bilan devrait être revu à la hausse et que c'est une guerre pour rien. Qu'est-ce que vous répondez?
Ok, à propos du bilan, je voudrais vous dire que les maisons qui ont été brûlées, c'est plutôt 10 maisons dans le village de Bikinga 1. C'est 50 maisons dans le village de Bikinga 2, 4 maisons dans le village de Kanono et 9 maisons à Nanenge. À propos de blessés, il dit que il voudrait savoir, il faudrait être sur le terrain pour savoir combien réellement il y en a eu. Les blessés, je voudrais informer que les blessés de Mikalaki dans la nuit de samedi sont arrivés, deux viennent d'arriver déjà à Bukavu. Et puis autre chose, à propos des bilans, j'ai l'impression que il n'y a pas eu, à ma connaissance, sauf la fille de King est décédée à Kanono, il n'y a pas eu de dégâts au niveau des civils. Mais plutôt, je voudrais revenir à la question de savoir pourquoi. Il dit qu'il y a, c'est une guerre pour rien. Je l'ai suivi dans l'émission Dialogue entre Congolais dernièrement. Il a dit qu'il n'y avait pas de danger et de menace. Mais l'insurrection en elle-même est une atteinte à l'ordre et à la sécurité publique. C'est fait et réprimé par la loi congolaise. Comment une insurrection ne constitue pas une menace? Deuxièmement, les agissements de ce groupe. Ils ont créé des entités politico-administratives, la collectivité de Bijombo, la collectivité Kamombo, la collectivité Itombwe. Les tracasseries contre les populations civiles par des barrières, surtout contre les non-Banyamulenge, parce que ils ont voulu diviser les populations qui étaient déjà en concorde et en coexistence pacifique depuis plus de 5 ans. Il y a un commerçant qui s'appelle Deo qui a été tué à Mitamba. Et d'autres encore. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a eu aussi la constitution de nouveaux groupes armés. Les forces armées Maïmaï, les Maïmaï rénovés et consorts, qui étaient une conséquence ou une résultante de la présence des groupes armés à Minemwe, sur le haut plateau et le moyen plateau. Autre chose qu'il faut dire, il faut dire que Minembwe, pourquoi on a commencé par Minembwe? Ce n'est pas le gouvernement qui a commencé les hostilités, c'est plutôt les insurgés qui ont commencé. Après la restructuration de l'armée ici au sud Kivu et dans l'ensemble du territoire national, le commandement de la 10e région militaire a entrepris des descentes à Uvira et à Fizi pour rassurer les populations locales qui étaient déjà dans une horreur. Et il devait aussi faciliter la reddition parce que certains éléments avaient commencé à se rendre, notamment le groupe de Mukalaï, qui était parti des insurgés aussi. Mais aussi, il fallait traquer ceux-là qui ne voulaient pas.
Oui, Sébastien Ngomiratiza, excusez-moi de vous arrêter. Si on vous comprend, c'est juste pour une précision. Hein. Est-ce que vous voulez donc dire, en répondant au sénateur Moïse Niarugabo, qu'en fait, pour vous, cette guerre se justifie?
Je voudrais dire ceci. Le gouvernement a donné plus de 20 mois à négocier. Il y a eu des missions de descente de la 10e région militaire, de la MONUC et de la commission vérité et réconciliation. Donc les moyens pacifiques ont été utilisés, même si ça n'a pas été vidé. Si les insurgés auraient dû laisser le temps pour voir si la stratégie allait aboutir. Sinon, les insurgés se sont rendus compte que certains de leurs en se rendant, ils devenaient affaiblis.
Oui, allez-y. On a des problèmes.
Ils devenaient affaiblis, ouais. Alors ils ont jugé bon de commencer la guerre immédiatement pour retenir ceux-là qui sont avec eux et qui avaient la tentative de se rendre au gouvernement de l'FRDC. Ouais.
Donc, ça se justifie en quelque sorte, si on comprend vos propos.
Oui.
Voilà.
Ouais.
Est-ce que Monseigneur Joseph Ngwaoumanya, vous qui êtes recteur de l'Université catholique de Bukavu, est-ce que vous êtes aussi de cet avis que c'est une guerre justifiée, comme vient de le dire Sébastien Ngomirakiza, contrairement aux propos du sénateur Moïse Nyarugabo, qui lui estime que c'est une guerre pour rien, qu'on pouvait éviter, pardon.
Il est difficile de dire qu'une guerre est justifiée, mais il y a des guerres qui sont inévitables. C'est deux choses différentes. Par contre, on peut dire une autre chose, c'est que le dialogue doit se poursuivre, bien entendu. Mais le dialogue ne peut pas signifier non plus l'anarchie permanente. Que ce soit les insurgés de Minembwe ou les autres insurgés, il est contraire à une vie républicaine d'avoir 50 armées. Donc il faut que tout le monde se mette en route pour que nous ayons qu'une armée républicaine et non pas chacune l'armée de sa famille ou de son village. Ça, c'est le principe général. Si quelqu'un en fait en ça constamment, un jour ou l'autre, évidemment, on peut avoir des incidents. Une autre chose qu'il faudrait pouvoir, et cela est vraiment, j'ai dit ici, à l'intention des insurgés, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que des Banyamulenge qui sont des insurgés, il y en a d'autres communautés, hein, comme il y en a eu, c'est de dire que l'insurrection est un état de crise comme la fièvre pour un malade. La fièvre indique qu'il faut agir, mais si quelqu'un est en fièvre pendant 6 mois, il en meurt. Alors, autre chose, l'insurrection ne saurait devenir une profession ou un état de vie. S'il y a des problèmes pour lesquels il y a des insurrections, on s'assoit, on discute, on arrive à une solution et on continue la vie, mais on ne peut pas imaginer qu'un pays ait une insurrection permanente. Ce serait dommage.
Alors, sénateur Moïse Nyarugabo, vous avez suivi notamment Sébastien Ngomirakiza qui dit que...
Non, j'ai suivi, mais je considère que l'argument n'est pas massif. L'argument est faible. Pourquoi? L'insurrection, j'ai bien dit qu'il y a 14 000 non-embrassés. Et sur le haut plateau, en tout cas de la bouche des officiels, ils disent que c'est entre 250 et 300 qu'ils appellent insurgés ou réfractaires au brassage. Il y a quelqu'un comme Yakutumba. Il a même un mouvement politico-militaire. Il fait des déclarations contre le gouvernement, contre tout le monde. Et il n'est pas encore attaqué. Et pour aller chez lui, il ne faut même pas aller par avion ou à pied, comme c'est le cas à Minembwe. On peut accéder par route, par véhicule. Il n'est pas encore attaqué. Aujourd'hui, le gouvernement utilise, parmi les 14 000 groupes militaires ou Maïmaï ou Maïmaï rénové, tout ça, pour combattre les 300 qui sont sur dans les hauts plateaux.
Qui auraient commencé les affrontements les premiers.
Ça, je détiens ça de Sébastien. Je préfère que cette affirmation lui soit attribuée. Qui a commencé, moi je n'ai pas encore fait d'enquête. Mais je veux dire ceci. On utilise maintenant les gens non brassés, non intégrés. On les réunit par camion, dans la plaine, partout. On les envoie dans les hauts plateaux pour les opérations. Donc là, je me dis, ce n'est plus l'insurrection, ce n'est plus un problème de brassage. Le problème est ailleurs. Il a parlé de la création des entités administratives. Je l'apprends de lui. Je suis du même village que lui, Sébastien. Et je suis donc ressortissant de la même localité que lui. Nos villages sont voisins. Et quand il dit qu'il y a eu création des entités administratives, je l'apprends de lui. Mais je note que tous les différents chefs de poste qui sont en fonction dans le haut plateau ont été nommés par un militaire et lui le connaît. Sébastien connaît ce militaire-là. Et là, il a trouvé que c'était correct. Ils étaient nommés par Massouzou sur tous les hauts plateaux. Et là, c'était correct. Il était militaire quand il l'a fait. Pourquoi Sébastien ne s'est pas opposé? Pourquoi il n'a pas trouvé que c'était la rébellion? Toi, les tracasseries, les phares de ces tracasses, même ici à Kinshasa, où nous sommes au siège des institutions, on ne leur fait pas la guerre dans toutes les provinces. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas dans la presse chaque jour? Et même les frères de ceux qui sont dans les montagnes, dans les hauts plateaux, qu'est-ce qu'ils font? Sébastien le sait. Et évidemment, aujourd'hui, vous savez, les héros à bon compte, aujourd'hui, tout ce qui se fait dans les hauts plateaux, ce sont les insurgés. Tout ce qui meurt, ce sont les insurgés. Tous les blessés, tous les pillages, tout le mal, c'est eux. Mais entre nous soit dit, ce qu'ils font les par défaut, nous le savons. Donc je voulais dire que les Maïmaï, il a parlé des Maïmaï et des Maïmaï rénovés. Justement, même dans les hauts plateaux, il y a des Maïmaï qui étaient là, qui n'ont jamais été au brassage. Mais aujourd'hui, ces Maïmaï travaillent avec les FRDC. Et même ceux de la plaine, et même ceux d'ailleurs qu'on est en dérégroupé. Donc je crois que maintenant, c'est là que je ne comprends pas la quintessence. Je ne comprends pas l'objectif, c'est quoi? C'est juste de neutraliser les poissons. Et est-ce qu'après ça, on va maintenant prendre d'autres groupes, les 13 700? Bon, j'attends.
Je pense que c'est deux poids deux mesures.
Absolument. Deux poids deux mesures.
Nous poursuivons cette émission Dialogue en Congolais, affrontement armé dans les hauts et moyens plateaux de Minembwe au sud Kivu. Quelle solution pour mettre fin au conflit? C'est l'objet de la dernière partie de cette émission avec les mêmes invités. Moïse Nyarugabo, le sénateur RCD, Sébastien Ngomirakiza, cadre du PPRD au sud Kivu et ressortissant du haut plateau de Minembwe. Monseigneur Joseph Ngwaumanya, il est recteur de l'Université catholique de Bukavu.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Quelle solution à ce conflit? Les insurgés n'ont pas de conditions à poser, ils doivent se rendre. Propos du commandant 10e région militaire, mardi dernier, le général Sylvain Chikwej dit avoir mis en déroute le groupe d'insurgés cantonnés depuis plus d'une année dans les hauts plateaux de Minembwe. Ces groupes, commandés par des officiers réfractaires au brassage, avaient toujours posé des conditions pour rejoindre les rangs des FARDC, notamment l'érection de Minembwe en territoire. Selon toujours le général Chikwej, commandant de la 10e région militaire, cette attaque avait suscité la riposte des troupes loyalistes. Les opérations se poursuivent, mais la 10e région militaire se déclare disposée à recevoir tout insurgé candidat au brassage sans condition. Le général Sylvain Chikwej, au micro d'Afrique Mujinga.
Nous avons récupéré toutes les positions jadis occupées par les insurgés. Ils sont en débandade par groupe de 10, de 8 rendez-vous sur la de Minembwe. La poursuite continue. Il y a deux d'abord capturés à Minembwe, 4 capturés à 35 km au Vira, 9 capturés sur la plaine de la Rose-Divi qui voulait traverser pour le Rwanda. Leur leader donne des conditions. Je dis non, pas des conditions. S'ils veulent se rendre, qu'ils se rendent, mais sans aucune condition. Ils sont en train de négocier avec la Monique par l'intermédiaire du chef de bureau politique auprès de son excellence M. Sung. C'est lui qui m'informe de leur contact qu'ils ont pris.
La reddition est aussi cette piste de solution au problème des conflits sud-kivu que propose le colonel Mukalai, un militaire ex-insurgé qui invite ses anciens collègues restés en brousse à rejoindre l'armée nationale congolaise et demande également au gouvernement de trouver des solutions pacifiques aux militaires afin de venir en aide à la population qui en souffre. Le colonel Mukalai est joint par Pamela Amunazo.
Je dis à mes frères qui sont restés en brousse, qui continuent à combattre les forces gouvernementales, je leur dis que c'est l'État. L'État doit être utilisé et manipulé. Il faut qu'ils rejoignent les FARDC pour construire notre pays. Encore, il faut qu'ils ferment les yeux et les oreilles pour ne pas écouter ces gens qui veulent les manipuler. Du point de vue du gouvernement, de trouver une solution, que ce soit pacifique ou militaire, je ne peux pas juger à la place du gouvernement, mais c'est le gouvernement de chercher le mécanisme pour résoudre ce problème. Plus que même, nos parents, nos familles sont dérangés. Il y a des villages qui ont été brûlés à cause de ces gens. Il y a même des réfugiés, soit les gens qui se déplacent d'ici et là, qui passent la vie dans des forêts, à qui je demanderai au gouvernement central de les aider en assistant ces populations, aussi en assurant leur sécurité.
Monseigneur Joseph Ngwaumanya, est-ce que la solution militaire qui est appliquée actuellement, vous pensez que elle doit être poursuivie, c'est-à-dire il faut poursuivre les affrontements, comme le dit le commandant de la 10e région militaire?
Ben, je pense que la première solution serait le dialogue, dans la mesure où ce dialogue peut porter et que ce dialogue ne mette pas en cause la légitimité démocratique et républicaine. Cela étant dit, évidemment, si la seule solution est celle-là, il faut bien le faire, mais la guerre, c'est jamais bon.
c'est une solution, c'est un aveu d'impuissance de la cohabitation citoyenne. Cela est dommage qu'une armée pointe le fusil sur ses citoyens. Il y a quelque chose, une maladie qu'il faut guérir. Et pour moi, guérir cette maladie, c'est la promotion de l'esprit républicain et démocratique. Quand je dis républicain, c'est-à-dire que les gens puissent avoir une attitude d'égalité vis-à-vis de droits et de devoirs individuellement devant la nation. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a des mérites, il soit rétribué pour ses mérites. Quand il a des délits, et il soit jugé sur ses délits et non pas au nom d'un groupe humain ou d'une communauté ou d'une tribu. Tirer toujours les choses de ce côté-là, c'est vraiment réduire le pays à la mesquinerie, et il faut qu'on sorte de ce cycle. Quand je parle de l'esprit démocratique, c'est que derrière ça, on a parfois la sensation qu'il y a des personnes qui peut-être estiment qu'ils n'ont pas assez de morceaux. Et je ne parle pas seulement de Ninembwe, mais d'un peu partout. Ils n'ont pas un morceau suffisant au gâteau du pouvoir, et qu'il faut trouver une manière de prendre place au soleil. Mais ça coûte trop cher aux autres compatriotes. Et je crois que l'esprit démocratique, c'est procéder à l'alternance pacifique et démocratique, et savoir perdre et savoir gagner, être un peu sportif. Je pense qu'il manque parfois aussi l'esprit sportif.
Oui, mais Monseigneur Joseph Guaumouhania, quand vous parlez de dialogue, pourtant les affrontements sont déjà là et doivent même se poursuivre, d'après le général Sylvain Tshikoej. De quel dialogue vous parlez? Ça devrait se faire comment?
Le dialogue, je suppose, entre les gens qui prennent les décisions à un certain niveau, hein, que ce soit au niveau gouvernemental ou au niveau des politiciens qui poussent ces jeunes gens qui sont dans la brousse. Moi, je ne pense pas que ces jeunes gens qui ont les fusils ont chacun une autre pensée de grosses ambitions politiques. Ils servent quelqu'un, c'est quelqu'un n'a qu'à dialoguer avec qui de droit dans les institutions. Je crois que nous avons des institutions pour le dialogue au niveau national et au niveau international. Je parle donc du dialogue à ce niveau-là, et non pas au niveau des militaires qui se tirent les uns dessus. Évidemment, ça peut arriver aussi, mais souvent on sait très bien que quand quelqu'un tire, c'est quelqu'un de mal qu'on tire.
Sébastien Ngomirakiza, vous qui êtes cadre du PPRD, il y a un auditeur de Bukavu, Matumu, lui dit qu'il pose une question. Un vrai militaire peut-il poser des conditions politiques à son pays s'il n'est pas manipulé par des politiciens? On a suivi un peu Monseigneur Joseph Guaumouhania l'effleurer. Est-ce que vous pensez aussi que les insurgés sont manipulés par des politiciens?
Oui, je suis de cet avis parce que je vais donner quelques raisons. C'est parce qu'ils donnent des revendications politiques alors qu'ils sont militaires. Notamment la question des réfugiés, la question de l'histoire de Ninembwe. Ça, ce sont des questions des intérêts à moi. Ce sont des questions plutôt entre États. C'est plutôt des questions nationales que des questions des militaires. Deuxièmement, je voulais vous dire que dans deux ans depuis août 2005, depuis qu'ils sont dans le haut plateau, certains insurgés, d'autres infiltrés, ils sont passés de quatre partis politiques. Quand ils sont arrivés, ils disaient qu'ils étaient du SED. Quelques jours après, ils ont changé pour dire qu'ils étaient du FSP. Des FSP, ils sont allés au CNDP, et des CNDP, ils sont aux forces républicaines fédéralistes FRF aujourd'hui. Comprenez déjà que s'ils avaient une position sûre et nette, ils n'auraient pas changé de camp de cette façon-là.
Voilà. Alors, sénateur Moïse Niangabo, vous croyez aussi à la manipulation de ces insurgés, parce que vous-même, vous êtes politicien.
Non, justement, c'est ce qu'il vient de dire, M. Sébastien, contredit l'assertion de la manipulation. S'ils sont manipulés, ils sont manipulés par qui? Il y a au moins quatre partis qu'il vient de citer. Eux ont changé de parti depuis quelques mois. Alors, ils sont manipulés par qui?
Est-ce que ce n'est pas le RCD,
Non, si c'était le RCD, il n'aurait pas abandonné le RCD pour aller aux autres partis qu'il a cités, d'autres que je ne connais pas. Donc, je veux dire, quelque part, son argument démontre qu'il n'y a pas nécessairement manipulation, et si la manipulation n'est pas là où il pointe le doigt. Je voulais dire ceci. Peut-être que ce n'est pas bon, c'est pas correct de poser des questions, des problèmes politiques pour un militaire. Je suis totalement d'accord. Mais c'est aussi responsable de considérer qu'on a le droit de ne pas résoudre les problèmes qui se posent. Quand quelqu'un pose la question des intérêts à moi, qui sont à côté de Bukavu, qui continuent à tuer, à égorger, à tuer nos populations par les haches, par des machettes. Même la semaine passée, ils ont enlevé 4 femmes. La semaine passée. Et ils sont à quelques kilomètres, s'ils ne sont pas dans la ville de Bukavu. Le commandant des régions ne trouve pas d'inconvénient que nos troupes, les troupes des SRDC, cohabitent avec les Interahamwe. Ce n'est pas un problème. Et c'est lui qui soulève une pareille question, il commet un péché. Simplement parce qu'il est militaire. Je dis non, quand même. Ok, que les militaires ne posent pas ce problème, mais que le commandant des régions s'en occupe. Que le gouvernement nous dise ce qu'il est en train de faire de cette question. Qui devait être la plus préoccupante, la plus urgente. Les Interahamwe ne tuent pas dans les montagnes, c'est à quelques kilomètres de Bukavu, c'est à Walungu. C'est là où ils tuent à Kanyola et ailleurs. C'est là où ils ont enlevé encore les femmes la semaine passée. Le commandant de la région ne dit rien. Aucune opération n'est envisagée. Écoutez, quand même. Quand on parle des réfugiés, ok, que le militaire n'en parle pas. Mais que le gouvernement trouve quand même la question, trouve la réponse à cette question des réfugiés. Pourquoi on peut signer les accords tripartites pour tous les autres réfugiés de tous les autres pays, sauf quoi, 2 ou 3? Donc, c'est des questions quand même qui se posent, qui doivent trouver des solutions. Et je considère que cela ne suffit pas pour faire la guerre dans les montagnes, dans les hauts plateaux. Ça ne suffit pas.
Quelle est la solution alors, sénateur Moïse Ndougabou?
Parce que d'autres qui n'ont pas accepté le brassage, les 13 700, eux n'ont pas posé de problème, par exemple, du territoire de Minembwe. Mais ils ne sont pas brassés, ils ne sont pas intégrés, ils ne sont pas dans l'armée. Donc, ce n'est pas le seul problème, celui-là. Et je considère, messieurs, que la solution, c'est dans le dialogue. Nous nous demandons que la guerre s'arrête. Je confirme que c'est une guerre pour rien. Aujourd'hui, le commandant de région dit qu'on a capturé, on a capturé. Ce qu'on a capturé dans la plaine de la Rosizi, c'est archi-faux. Ce sont des civils. C'est 2 garçons démobilisés. Ils ont des cartes de démobilisés. Je mets au défi quiconque, le commandant de région y compris, de prouver qu'ils sont militaires. D'autres sont des civils, des élèves et des étudiants. Et ils avaient passé la nuit chez un capitaine. Le seul militaire en fonction, c'est le capitaine de Kamagnola, qui est en prison avec eux. Il est le seul militaire, parce que les autres ont passé la nuit chez lui.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, sénateur? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas tous mis dans les routes, comme il dit?
Non, je vais parler d'abord des capturés. Il y a eu des jeunes gens, 2 démobilisés, et d'autres civils. Pendant les vacances, qui voyageaient? Est-ce qu'ils allaient au Rwanda? Est-ce qu'ils allaient à Bukavu? Parce que pour aller à Bukavu, on passe aussi par le Rwanda. Arrivés à Kamagnola, la frontière, on les a arrêtés. Et ils n'ont pas pu traverser. Et le lendemain, on leur a demandé de passer la nuit quelque part, que leur cas devait être examiné le lendemain matin. Et le lendemain matin, on a trouvé qu'ils avaient dormi chez un capitaine, un militaire, Mignamouleng, de Kamagnola. Et ce militaire, elle est démobilisée, elle est civile, tous on les a embarqués, ils sont en prison à la 10e région militaire. Je vous dis, monsieur le journaliste, que je mets au défi quiconque, même le commandant de région, de démontrer que ces jeunes gens qui sont en prison sont des militaires.
Donc,
sauf le seul capitaine de Kamagnola.
Voilà, donc, vous dites qu'il y a des innocents.
Même les capturés là, moi, j'ai mis des réserves. Et s'il y en a, ce n'est pas la solution, ce n'est pas la fin de la guerre, parce que ça continue. On vient de nous dire qu'à Mourandia, ils se sont battus. C'est là où le commandant des régions nous disait qu'ils avaient récupéré cette localité. Mais on nous dit qu'hier, ils se sont battus à Mourandia. Donc, pourquoi tous ces combats? Pourquoi tous ces affrontements? Pourquoi les civils vont y laisser leur vie? Pourquoi ils perdent leurs biens? Pourquoi ces maisons sont brûlées? Pourquoi les barques sont emportées? D'autres vers Kachongo, au ciel de Maïmaï, d'autres à Ouvira, où on a retrouvé 67 qu'on a remis à la communauté. Mais ceux qu'on n'a pas retrouvés, c'est beaucoup. Donc, pourquoi tout ça? On peut trouver la solution par le dialogue. Nous demandons au gouvernement de revenir au dialogue. C'est possible. Et je fais un appel particulier au commandant des régions, parce que je sens qu'il n'en veut pas. Il dit que c'est la MONUC qui l'informe.
Voilà.
Justement, la MONUC qui l'informe parce que lui, il ne prend pas contact.
Ouais, on va poser la question à Sébastien Ngomirakiza, qui est cadre du PPRD, parti donc majoritaire au gouvernement. Sébastien Ngomirakiza, est-ce qu'il faut le dialogue comme le souhaite le sénateur Moïse Nyarugambo?
Oui, le dialogue, il en faut, mais je voudrais d'abord parler de 14 000 noms brassés qui seraient utilisés dans cette guerre. C'est mon vœu le plus ardent de voir le major Rukunda et le major et le colonel Bissobo venir et faire partie des FARDC, des éléments non brassés, faisant la guerre à Yakutumba ou à quelqu'un d'autre. Parce que ceux-là au moins ont accepté de servir sous le drapeau national et après ça ils seront au brassage. Quant à dire qu'il faut un dialogue, oui. Je sais que le gouvernement est décidé, il y a même une commission du gouvernement qui est arrivée ici, une délégation qui dit que le gouvernement est décidé. Mais comme je sais que je continue à affirmer que ces gens sont instrumentalisés, on propose. En janvier, février, il y a eu des hostilités à Minembwe. Le chef d'état-major Force Terrestre avait donné, avait signé une trêve, et de cette trêve, pendant 6 mois, les insurgés avaient récupéré le territoire, mais ils n'ont jamais eu le temps de dire oui au dialogue avec le gouvernement pour se rendre dans les chambres de brassage. Je voudrais rappeler que, à cette occasion, pour que le chef d'état-major Force Terrestre donne la chance à ces jeunes de revenir, il y avait des notables. Sema Orokaraha, Raphaël Manua, Mitabu Vikino, Dainda Karoge et Rugaligo, qui avaient signé un document qui est à la disposition de l'état-major Force Terrestre et de la MONUC pour dire que si ces jeunes n'allaient pas au brassage, qu'ils soient traqués, qu'on leur fasse la guerre. Mais aujourd'hui, on n'est pas là. Si on peut donner à ces gens ces 10 et 15 jours pour sauver ce qui peut l'être encore, je crois que ça serait social et le gouvernement devrait s'y pencher. Je sais que c'est dur, mais il faut y aller.
Merci beaucoup, Sébastien Romirakiza. Je rappelle que vous êtes cadre du PPRD. Nous allons prendre quelques opinions des auditeurs avec Belinda Bossouma.
Oui, Salé d'Ouvira, au sud Kivu, affirme que selon Canal Afrique, capté ce matin à Ouvira, Raphaël Bakemana, le rapporteur, parle des débandades des FARDC, des massacres. Pourquoi la RDC ne poursuit pas ce démagogue et tribaliste qui ne cesse d'attiser la haine vis-à-vis des Banyamulenge? Chaban Abounia, dans la province orientale, pense qu'il y a une forte dictature dans notre pays. Pourquoi ne pas envoyer Mbouza Mabé alors qu'il était efficace à la tête de la 10e région militaire et il est connu comme un vrai guerrier? Cody Emea de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, estime que la solution de l'Est est politico-militaire. Pour ce faire, il faut de prime abord élever des soldats en table ronde. De Bukavu, au sud Kivu, Robert Baomé demande: quelle est aujourd'hui la position réelle du gouvernement face à cette situation d'affrontement armé? Que cherchent ces insurgés au juste? Ne vont-ils pas soulever encore les problèmes de nationalité au sud Kivu? Abraham de Lubumbashi au Katanga trouve que le gouvernement nous enrichit avec les termes brassage, mixage. Ce sont les termes utilisés aussi pour la population du nord et sud Kivu. Mais les désordres règnent encore, donc le gouvernement est responsable. Enfin, François Makiambe de Bukavu propose que pour pacifier le haut plateau du sud Kivu, il faut contraindre les insurgés de partir au brassage et les muter dans d'autres provinces.
Merci beaucoup, Belinda Bossouma. Nous commençons par vous, Monseigneur Joseph Gwamouania. Il y a parmi nos auditeurs ceux qui proposent une solution politico-militaire. Vous êtes d'accord avec cette solution?
Je ne comprends pas bien politico-militaire ce que cela veut dire.
J'imagine, c'est peut-être des négociations pour ce qui est de politique et militaire, peut-être la guerre.
Je pense qu'il y a des ordres dans les deux camps, hein, parce que dans la mesure où ces messieurs-là qui sont des insurgés n'ont pas de parti politique, on ne sait pas très bien à quel niveau le dialogue va se faire, c'est pour ça que je parlais de ceux qui les envoient. Dans la mesure où ils n'ont pas un parti politique, comment ils vont négocier avec un gouvernement? Ça, je ne suis pas assez
rôder pour le savoir. Mais il est certain que pour ceux qui en connaissent un peu plus, il y a des politiciens qui sont derrière eux et qui peuvent négocier avec le gouvernement.
Mmh.
Pour ce qui est de la pratique militaire, j'imagine qu'il existe des usages lorsqu'on veut arriver à un cessez-le-feu, lorsqu'on veut arriver à une trêve, on l'a déjà fait, donc on peut le faire. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est quand même renforcer les institutions de ce pays pour que ce ne soit pas un lieu de non-droit et d'anarchie. Donc, tout doit être fait pour qu'on aille dans ce sens.
Comment est-ce que vous répondez à cette autre question d'un auditeur, Robert Baumé, sur les vraies raisons ou motivations de ces insurgés? Est-ce que vous en avez une idée?
Les vraies motivations?
Oui.
Là, vraiment, je dois dire que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer ces insurgés pour qu'ils me disent quoi. Mais je continue à penser qu'il y a toute une question de partage du pouvoir, etc. Mais quand on regarde la carte des plateaux de Minembwe, j'imagine que s'il y avait la paix, il y aurait largement de quoi travailler, de quoi vivre correctement pour tout le monde. C'est un plateau beau et riche et où des gens ont vécu pacifiquement et où ils peuvent encore vivre pacifiquement. Je pense que ce qu'il faut, c'est que tout soit fait pour que cela soit possible. Quoi.
Alors, Sébastien Ngomirakiza, le gouvernement est responsable, selon un auditeur. Vous êtes de cet avis?
Oui, le gouvernement est responsable de toutes les actions, de la sécurité des biens et des personnes, et vous devez garantir la paix à tout le monde.
Et quand on parle de la solution politico-militaire, vous l'approuvez aussi?
Politico-militaire, ça veut dire quoi?
Bon, je ne suis pas dans l'esprit de l'auditeur, mais j'essaye de le dire. Politique, moi, je vois des négociations, peut-être, parce que...
Politico-militaire, c'est... À moins que les manipulateurs soient identifiés pour qu'on leur parle, et là c'est politique, les militaires des insurgés devraient parler en termes militaires.
Nous terminons par vous, sénateur Moïse Nyarugabo.
Non, je vais d'abord dire que les gens disent facilement, ils sont manipulés, ils sont instrumentalisés. J'ai besoin de savoir...
Vous ne croyez pas?
Ah non, attendez, qui est manipulé, qui ne l'est pas? Tous ceux qui parlent, qui prennent des positions, qui disent... Je cherche à savoir à quel point eux ne sont pas instrumentalisés. Bon, même ceux qui sont en guerre, ceux qui attaquent, est-ce que vraiment ils sont convaincus qu'ils se battent pour la nation et un problème pour la nation pour laquelle ils se battent? Est-ce qu'ils ne sont pas eux instrumentalisés? Donc, je crois qu'on doit, avant de dire manipuler, instrumentaliser, essayer d'identifier la notion qu'on veut exprimer. Je veux dire que je confirme que cette guerre est inutile. C'est pour rien qu'elle s'est faite. Les victimes que nous enregistrons, c'est pour rien qu'ils le sont. Et que le dialogue peut résoudre ce problème.
Mais dialoguer avec qui?
Le dialogue a existé. Le chef d'état-major des forces terrestres est allé rencontrer ce qu'on appelle les insurgés. Ils ont eu des réunions. Ils ont pris rendez-vous à Rumingu avec le chef d'état-major des forces aériennes, le général Numbi, le général Tangofor. Ils ont eu rendez-vous. Ces insurgés sont descendus jusqu'à Rumingu pour les rencontrer. Donc, c'est parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient s'adresser à eux, ils pouvaient parler à eux. Pourquoi ils n'ont pas cherché les fameux instrumentateurs, je ne sais pas comment le dire, les fameux manipulateurs? Ils ont parlé à ces colonels, à ces majors. Et ils sont venus à Rumingu. C'est à Rumingu qu'ils ne se sont pas rencontrés. Donc le dialogue qui avait commencé a été arrêté. Ce dialogue peut reprendre. Le commandant de région, qui dit que c'est un conseiller politique de la MONUC qui lui dit, ils ont pris l'avion il y a 2 semaines, ensemble, ils sont allés à Minembwe, pour chercher la solution. Lui, il a fait un aller-retour. Celui de la MONUC a pris contact. Donc, je crois qu'on peut reprendre ce dialogue, c'est possible, et on peut arrêter la guerre, et... Même le brassage peut avoir lieu, l'intégration peut avoir lieu au travers d'un dialogue.
Merci beaucoup, sénateur Moïse Nyarugabo. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. Préparation d'émission Innocent Olenga, réalisation d'Aline Foula. Jean-Claude Sial a été à la technique. Au revoir à tous et bonne suite de programme sur votre radio, Radio Okapi.